21h passée de quelques secondes sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Wagon Livre, votre rendez-vous littéraire hebdomadaire. C'est le deuxième numéro de ce début d'année 2018. Et ce soir, nous allons vous proposer un entretien avec le prix Femina 2017. C'est en effet Philippe Janada qui est notre invité pour son roman La Serpe, paru chez Julliard. Un gros roman, un travail titanesque d'enquête de 640 pages qui revient sur un terrible fait divers qui défraya la chronique en France en octobre 1941. Nous avons rencontré Philippe Janada en décembre dernier à Dijon, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. Philippe Janada a publié entre autres chez Julliard Le Chameau sauvage, Sulac et La petite femelle. Il revient avec donc un nouveau roman, La Serpe, qui a obtenu l'an dernier le prix Femina. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on ouvre ce 325e numéro de Wagon Livre avec un hommage à la chanteuse France Gall, disparue il y a quelques jours à l'âge de 70 ans. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Y a comme un goût amer en nous. Comme un goût de poussière dans tout. Et la colère qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords. On aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords. On aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Bonsoir Philippe Janada.
Bonsoir.
Philippe, je te tutoie parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques années, c'était à Livre en Vigne.
Oui.
Mais je pense que tu étais venu à l'époque avec un roman qui s'intitulait Sulac.
Je pense, donc c'était il y a 4 ans peut-être.
Oui. Alors, bravo Philippe,
merci.
Prix Femina 2017 avec La Serpe.
Ouais.
Gros roman, c'est aussi une grosse enquête policière, un immense travail dans lequel tu as fourré ton nez et toutes tes compétences d'enquêteur.
Ça, j'ai bossé, oui. Mais alors, c'est un long travail, hein. C'est un travail minutieux et long, c'est vraiment plus d'un an. Mais c'était un tel plaisir pour moi, enfin, c'est quelque chose qui me passionne tellement de jouer les petits enquêteurs amateurs, là, les petits Colombos du dimanche.
D'ailleurs, je te cite, je suis l'homme des énigmes, un détective né, un véritable cochon truffier.
C'était un peu au second degré, hein, mais bon. En tout cas, ça me plaît de faire ça, ouais. Ça me plaît d'aller fouiller. Non seulement ça m'intéresse, ça me passionne, et puis ça m'émeut parce que ce sont des vieux papiers, des vieilles correspondances, des vieilles photos.
Alors tu as bien sûr épluché dans son intégralité le dossier judiciaire de l'affaire Girard, parce qu'il va falloir qu'on explique à nos auditrices et auditeurs de quoi il retourne. Tu as mis le nez dans une affaire judiciaire qui a défrayé la chronique en 1941. Pas tant que ça, la France avait d'autres préoccupations.
Oui, mais alors figure-toi que moi j'ai été assez surpris en voyant les journaux de l'époque, parce que je me suis procuré plein de journaux de l'époque, où je les ai consultés en version numérisée. Si tu veux, tous les journaux de l'époque qui étaient uniquement des journaux d'occupation, hein, c'est-à-dire tous ces journaux ont disparu à la Libération. La moitié de la une était consacrée à l'avancée de la formidable armée allemande qui allait libérer le monde. L'autre moitié de la une au petit déjeuner du maréchal et aux occupations vespérales du maréchal. Et le seul fait divers en 41 qui prend parfois une bonne place sur la une, c'est celui-ci. C'est-à-dire que tout le reste était relégué vraiment au second plan, sauf ce fait divers, peut-être à cause du fait que l'une des victimes travaillait à Vichy, au ministère des Affaires étrangères. Mais en tout cas, ça a eu un très très grand retentissement dans une époque, comme tu dis, où il n'y avait pas beaucoup de place pour ce genre d'informations.
Alors cette affaire, c'est un triple assassinat qui a lieu en octobre 1941 au château d'Escoire, qui se situe dans le département de la Dordogne,
oui,
à quoi, 12 kilomètres de Périgueux.
Oui, c'est une quinzaine de kilomètres à l'est, au nord-est de Périgueux, à l'est de Périgueux.
Et je te laisse un petit peu nous expliquer cette affaire qui est effarante.
Alors oui, c'est une affaire effarante et puis qui est... elle est tellement parfaite, on n'a qu'à dire, dans le genre affaire criminelle, qu'on dirait que c'est du faux. C'est tellement kitsch presque, on dirait que c'est une disciple d'Agatha Christie qui a essayé de faire pareil, mais avec des plus gros sabots et des grosses ficelles, alors que c'est vrai. Donc c'est un château, il y a tous les éléments vraiment pour un bon roman un peu simplet. C'est un château, donc dans ce village, qui n'est même pas un village, qui est un bourg, il n'y a aucun commerce, il y a à peine moins de 100 habitants. Un village presque fantôme, il y a une petite colline dominée donc par ce château, qui est un grand château, pas très beau, mais massif et assez inquiétant, assez lugubre. C'est un soir d'automne 1941, donc sous l'occupation, il pleut, il fait moche, tout le monde est déprimé. Dans ce château, il y a 4 personnes, donc les châtelains, qui sont des Parisiens, de riches Parisiens, qui viennent de temps en temps dans ce château en vacances, où là, en l'occurrence, ils sont venus peu de temps avant pour se réfugier quand les Allemands sont arrivés dans Paris, qui sont tous des personnages caricaturaux. Il y a le fils de famille, donc de bonne famille, qui est un jeune homme dépensier, capricieux, insupportable, qui voit son père ou sa tante que comme des porte-monnaies sur pattes, quoi, et qui pique des colères terribles si on lui donne pas l'argent qu'il veut pour s'acheter des belles voitures.
Un sale gosse.
Sale gosse par excellence. Vraiment, il est jeune, hein, bon, voilà, il a 23 ou 24 ans, mais c'est vraiment le sale gosse de bonne famille. Son père, il a perdu sa mère quand il était petit, quand il avait 9 ans. Son père, qui est une espèce de bon gars, mais un peu pâteau, un peu bougon, un grognard, on l'appelait, qui sait pas trop comment faire avec son fils, donc il lui donne de l'argent pour remplacer une affection qu'il a peut-être du mal à lui donner. La sœur du père, qui est donc la tante du jeune homme, qui est la vieille fille par excellence, un peu bigote, un peu pingre, mais pas mauvaise, plutôt gentille, qui s'occupe d'œuvres humanitaires, enfin on disait pas humanitaires à l'époque, d'œuvres caritatives, et qui sait elle non plus pas trop comment prendre ce jeune homme un peu moderne, etc. Et leur vieille bonne. Ils mangent ce soir du 24 octobre 41, tous les quatre, ils mangent en plus un plat bien typique, c'est une soupe de haricots, enfin c'est vraiment le truc de la Dordogne, quoi. Ils vont se coucher, tous les quatre, évidemment avant de se coucher, ils ferment toutes les portes et les fenêtres à clé, de l'intérieur bien sûr. Et le lendemain matin, le fils ouvre la porte et dit « Au secours !» Il crie « Au secours !» Son père, sa tante et la bonne sont horriblement massacrés. Alors vraiment, j'ai vu les photos, c'est vraiment un carnage. On se rend compte que c'est avec une serpe. qu'on retrouve dans une serpe. C'est pas comme on peut penser, à cause d'Astérix, on pense parfois, on confond avec une faucille, à cause de la serpe d'or d'Astérix. Une serpe, c'est un gros truc, hein. C'est un truc lourd, c'est fait pour couper les pieds de vigne. Donc dans la région, on connaît un peu, donc faut taper fort. Et on retrouve cette serpe ensanglantée. Le fils dit, je dormais, j'ai rien entendu. Sauf que la voisine vient dire, ah oui, la serpe, c'est lui qui me l'a emprunté avant-hier sous un faux prétexte. Je voulais pas lui donner, il me l'a prise quand même. Il est le seul héritier, puisque sa tante et son père étaient les deux seuls au-dessus de lui dans l'héritage de la fortune familiale. Il s'est débrouillé pour réunir son père et sa tante ce soir-là au château alors qu'il ne devait pas y être et que le père ne voulait pas venir. Il a beaucoup insisté pour qu'ils soient là tous les deux. Quoi d'autre ? Tout l'accable. Quand les gendarmes arrivent ou le maire arrive, il leur propose une cigarette, un verre d'eau de vie à 9h du matin.
Il joue même un petit air de piano.
Oui, il se met au piano. Alors on a dit à l'époque qu'il avait joué la marche funèbre. C'est carrément, là, c'est d'un cynisme. En fait, c'était un autre morceau de Chopin, oui, qui s'appelle Tristesse. Surtout, il n'y a pas d'effraction. Les gendarmes constatent qu'il n'y a pas d'effraction au château. Donc voilà, à moins que ce soit un passe-muraille qui soit venu tuer tout le monde, c'est sûr que c'est lui.
Et la piste du cambriolage ne tient pas. Impossible aussi.
Ah bah, à première vue, non. C'est-à-dire que pour cambrioler, alors, il aurait fallu passer à travers les murs. Et puis surtout, on a retrouvé 8000 francs dans un tiroir. On a retrouvé les bijoux. La tante avait des bijoux de grande valeur. On les a retrouvés posés sur la cheminée. Enfin bon, cette piste-là ne tient pas du tout. Et comme il est devenu riche du jour au lendemain, très riche même, il peut s'adjoindre les services du meilleur avocat de l'époque, qui est Maurice Garçon. Et un an et demi plus tard, presque 2 ans plus tard, après il était en prison pendant ce temps-là, il est, à la surprise et à l'indignation générale, acquitté.
Alors, page 192... Bon, il faut te connaître, hein, quand on te lit, il y a beaucoup d'autodérision, il y a de l'humour, il y a de la moquerie, de la méchanceté, parfois très, très piquante à l'égard des policiers de l'époque. Donc tu considères que l'enquête a été sans doute rapide et un peu bâclée ?
Oui, moi au départ, je me suis simplement dit, c'est sûr que c'est lui, et effectivement l'acquittement est une erreur judiciaire à l'envers. Mais plus j'ai cherché, plus j'ai fouillé, je suis allé voir donc le dossier. J'étais le premier depuis 1941 à pouvoir consulter le dossier d'enquête, de procédure, d'instruction, parce qu'il y a des délais de 75 ans après le procès pendant lesquels on n'a pas le droit de consulter les archives. Et quand j'ai vraiment commencé à rentrer dans le détail de l'affaire, je me suis rendu compte que autant on peut pas en vouloir ni aux juges d'instruction, ni aux gendarmes, ni aux policiers d'avoir pensé au départ et les premiers jours que c'était lui, parce que vraiment, c'est comme si on trouve un enfant avec du chocolat partout sur la bouche et que le pot de pâte à tartiner est vide à côté, on sent que c'est lui, quoi, quand même. Hein. Et donc c'était normal, mais on se rend compte qu'assez rapidement, au bout d'une semaine ou 8 jours, il y a beaucoup de choses qui clochent de plus en plus et qui semblent au moins être en mesure de mettre des doutes sur la culpabilité de ce jeune homme. Et là, c'est à partir de là que les gendarmes et les juges d'instruction une conduite moyennement respectable, c'est qu'ils écartent tout, en fait. Ils ont leur coupable, ce qui arrange tout le monde, parce que c'est le Parisien riche, châtelain, qui est donc pas très apprécié dans un pays un pays en campagne, et puis surtout un pays sous l'occupation qui souffre. Donc ça arrange tout le monde que ce soit lui, et malheureusement, le juge et les policiers vont un peu dans ce sens-là et écartent soigneusement toutes les autres pistes.
Merci d'être avec nous ce soir sur votre radio locale. C'est votre émission littéraire et sur les moelleuses banquettes de Wagon Livre, nous accueillons le romancier Philippe Janada, prix Femina 2017 pour La Serpe, un roman disponible aux éditions Julliard. Alors nous poursuivons cet entretien autour de ce triple meurtre perpétré dans un château sinistre du Périgord en octobre 1941. Mystère et suite de l'enquête avec notre invité après l'intermède musical que nous vous proposons. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Je trace mes pas dans le sable et le vent porte mes mains, bercé par le chant des vagues, par le parfum des embruns. L'écume se perd dans le vent, comme l'enfant s'échappe au temps. Je veux pouvoir revenir vers toi, innocence au bout des doigts. Tout est là-bas, chez moi. Why?
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Retrouvons le prix féminin 2017, notre invité Philippe Janada pour son roman La Serpe, paru aux éditions Julliard. Un roman qui revient sur un fait divers diabolique qui passionna la France sous l'occupation. Et Philippe Janada, enfilant le costume de l'inspecteur amateur, s'est plongé dans les archives de l'affaire Girard et a reconstitué l'enquête et déniché de nouveaux indices pour nous livrer un récit passionnant dont l'issue pourrait bien résoudre une énigme vieille de plus de 75 ans. Alors, 30 coups de serpe recensés sur les crânes des trois victimes et un présumé coupable en la personne de Henri Girard. Philippe, tu as vu les photos des victimes, toi ?
J'ai vu les photos, c'est pas beau à voir. Hein. C'est pas le genre de photos qu'on offre à Noël.
Alors, il est innocenté suite à un procès. Il est vrai qu'il a un avocat parisien, Maurice Garçon, qui est le ténor du barreau à l'époque. Et tu nous guides tout au long de cette enquête, hein. On découvre avec toi, on est aussi dans les archives avec toi, tu pèses le pour, le contre, c'est une vraie démarche intellectuelle, scientifique aussi.
Presque.
Tu la défends d'une certaine manière.
Je ne suis pas non plus un grand détective, hein. J'essaye de raisonner, mais en tout cas, au bout du compte, personnellement, moi j'ai la certitude qu'il est innocent. C'est-à-dire que c'est vraiment une certitude pour moi.
Hein. Et pour toi, le fait qu'il soit l'unique survivant fait que Henri Girard est forcément innocent. Alors il aurait dû fuir.
D'ailleurs, ce qu'on lui reproche, ce qui a constitué au début une des principales raisons de l'accuser, c'est-à-dire ils sont quatre et il n'en reste qu'un, le château est fermé. En fait, c'est plutôt pour moi, quand on regarde vraiment bien le dossier, c'est plutôt pour moi la preuve que ce n'est pas lui. Parce que si c'était lui, s'il avait eu 5 heures tout seul dans le château après avoir tué ces personnes pour faire une petite mise en scène ou quelque chose comme ça, une des choses entre mille autres, c'est qu'il aurait cassé un carreau, au moins pour faire croire que quelqu'un était rentré. C'est-à-dire que tout le monde pense qu'ils ont été tués vers 10 ou 11 heures du soir, enfin certains disent 9h30, mais disons au maximum à minuit. Ça veut dire qu'il avait, lui, il appelle au secours à 9h du matin, il a eu 9h, il n'est évidemment pas allé se coucher tranquillement après avoir tué tout le monde, donc il a eu 9h pour faire une sorte de mise en scène. Et alors je ne vais pas tout raconter ici, mais il y a un nombre de détails incalculables qui permettent de dire c'était un garçon intelligent, tout le monde s'accorde à dire ça. Jamais il n'aurait laissé, il aurait au moins échafaudé une toute petite thèse possible autre que lui, quoi. Et donc voilà, il y a plein de détails. Le livre fait 640 pages, donc il y a de quoi en faire l'énumération, qui, pour moi, prouve que c'est pas lui, mais il est mort en 1987. Parce qu'après, je sais pas si on en parlera, mais il a eu une vie très, très remplie après. Et jusqu'à sa mort, et jusqu'à il y a 2 ans... tout le monde considérait que c'était lui. Il s'est même amusé à l'avouer. Enfin, moi, je pense qu'il s'est amusé à l'avouer à quelqu'un. Enfin, bon, on découvre ça dans le livre, mais...
C'est Gérard de Villiers.
Gérard de Villiers, oui, l'auteur des SAS, qui est allé le voir en Algérie. Il a habité un moment en Algérie. Gérard de Villiers est allé le voir parce qu'il voulait racheter les droits du Salaire de la Peur, puisqu'il se trouve qu'il a écrit le Salaire de la Peur plus tard. Et Gérard de Villiers lui dit, allez, mon pote, ça fait 40 ans, tu peux me dire maintenant, c'est toi qui as tué tout le monde. Et il lui dit, oui... voilà, c'est moi qui ai tué tout le monde. Gérard de Villiers dit, mais pourquoi t'as tué la bonne ? Il dit, oh, j'étais énervé, j'ai tué la bonne. Et donc voilà, quand il est mort, Gérard de Villiers a publié ses mémoires, et dans ses mémoires, il y a un chapitre qui est consacré à ça, où Gérard de Villiers dit, voilà, ça y est, le livre sort en 1990 ou 95. Gérard de Villiers dit, voilà, ça y est, j'ai la solution de cette énigme vieille de 50 ans, il m'a avoué que c'était lui. Donc là, il n'y a plus aucun doute pour personne. Mais
Philippe, alors, la serpe qui est l'arme du crime. Oui. La serpe, Henri Girard l'a empruntée aux gardiens du château, les Doulets. Et chez les Doulets, les gendarmes ont retrouvé un pantalon qui était dans une bassine d'eau, donc qui était lavé, un pantalon ensanglanté. Alors, est-ce que les Doulets ont pu commettre ce triple assassinat ? Et si oui, dans quel objectif ? Puisque l'argent n'a pas été dérobé. Haine sociale, on est dans quelque chose de l'ordre des bonnes, un peu comme Genet, une vengeance sociale.
Ne compte pas sur moi pour te répondre là-dessus, parce que c'est le but du livre. C'est un livre où il y a quand même un peu de suspense, donc je ne te dirai pas un mot là-dessus. Mais je dis tout dans le livre, mais là, je fais appel à mon droit au silence.
Alors, effectivement, Henri Girard, qui est le désigné ou le présumé coupable, il a des traces de rougeur dans les paumes de la main. Alors, il a utilisé la serpe la veille pour couper, arracher je ne sais plus quelle végétation.
Pour couper des petits sapins. Mais en tout cas, dans les rapports de police, dans l'acte d'accusation et dans les journaux de l'époque, ça n'apparaît pas. C'est-à-dire que ce qu'on dit dans les journaux, et même ce que disent les officiels, hein, donc l'acte d'accusation, le réquisitoire définitif, etc., c'est qu'effectivement, il a dans la main des traces qui correspondent très exactes. Parce que la serpe, le manche, branle un peu, donc il y a une sorte de une vis ou je ne sais pas quoi, la lame qui marque la paume de celui qui s'en sert un peu fort. Il a les traces exactes de ça. Et il dit, ben non, je ne me suis pas servi de la serpe. Ça, c'est le reflet qu'on en a eu. Hein. Je ne me suis pas servi de la serpe. Et c'est au tout dernier moment, quand on lui prouve que vraiment, c'est sûr que c'est ça, les marques correspondent exactement, il dit, ah oui, j'ai oublié, j'avais coupé des petits troncs de sapin pour la cheminée, pour faire du petit bois pour la cheminée, 3 jours avant. Sauf que, apparemment, les traces datent forcément de moins de 24 heures, d'après l'expert, etc. Enfin, voilà, il y a tout un... Quand on regarde cette affaire d'un peu loin, c'est sûr que c'est lui. C'est-à-dire que lui dit, mes petits sapins, je les ai coupés il y a 3 jours. Mais l'expert dit, ces marques qui ne sont pas cicatrisées datent de moins de 24 heures, c'est-à-dire pile au moment où les victimes ont été tuées. Après, en fait, quand on creuse, on se rend compte que, voilà, que les apparences, il faut toujours aller voir, même et surtout dans le cadre des... En matière de justice, dans le cadre des expertises. Hein, même maintenant, c'est encore parfois un peu approximatif, mais alors à l'époque, les médecins, c'était au début de la science considérée comme vraiment quelque chose de presque divin qu'on ne pouvait pas contredire, mais on se rend compte que les médecins de l'époque ont commis des erreurs mais absolument terribles. Par exemple, pour dater, enfin horodater l'heure de la mort des victimes, ils emploient une méthode dont on sait maintenant que c'est une méthode complètement absurde, enfin qui ne marche pas du tout.
En tout cas, Henri Girard va passer 19 mois à la prison de la place Bellem avant d'être jugé, 19 mois de prison. Alors bien sûr, il est le coupable idéal. Alors on a regardé un petit peu ce qu'il y avait sous ses ongles. Alors c'est amusant parce que toi aussi tu vas vérifier exactement, hein, tu vas gratter un peu la terre. Et c'est amusant l'épisode où tu essaies d'aller trouver un tube qui a été caché dans les pierres d'une vieille tour. Il y a des gens qui te regardent et qui se demandent ce que tu fais. C'est très amusant, c'est ton enquête.
En fait, je suis parti pour la première fois. Normalement, moi, je suis vraiment très casanier pour me faire sortir de mon quartier. Il faut vraiment... Et là, très courageusement, je suis parti jusqu'à Périgueux. Je ne sais pas si tu te rends compte. Pour moi, c'est comme d'aller à Kuala Lumpur. Quoi. Et donc, j'ai passé une semaine à Périgueux. À la même époque que le crime, je voulais aussi voir la lumière, à quelle heure le jour se levait, etc. Le temps qu'il faisait, parce qu'il y a une histoire de rosée, il y a des objets qui ont été trouvés plus ou moins couverts de rosée. Donc j'ai fait les expériences, j'ai déposé un foulard en soie de ma femme dans le fossé du château. Et puis oui, ses ongles, j'ai gratté la terre avec mes ongles pour voir si, en me lavant les cheveux, ça disparaissait. Enfin, ça doit paraître complètement incompréhensible pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas lu le livre, mais le livre, le fil rouge du livre, c'est moi en... Donc un petit Colombo, pas très habile en apparence, parce que je force un peu le trait évidemment, qui va là-bas pour enquêter au fur et à mesure, et j'en profite, j'ai rencontré des gens, j'ai tourné autour du château, je suis même peut-être rentré dedans, ça faudra lire le livre pour savoir. J'ai essayé de reproduire quelques expériences pour essayer de contredire quelques théories parfois fumeuses.
Vraiment fumeuses, oui, certaines théories que tu démontes habilement à travers ce roman enquête dont je rappelle le titre, La Serpe, prix Femina 2017. C'est Philippe Janada, l'auteur de ce roman, qui nous accompagne jusqu'à 22h sur Radion, c'est Wagon Livre, et nous nous retrouvons juste après une nouvelle pause musicale.
I don't know what I want. Lonely loser.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Si vous venez de nous rejoindre, nous évoquons l'affaire Henri Girard, un fait divers dramatique qui a marqué les esprits en 1941. En effet, un triple meurtre, trois victimes massacrées à coups de serpe et un survivant, un jeune homme de 24 ans, Henri Girard, qui quelques jours auparavant avait emprunté la fameuse serpe, arme du triple meurtre. Alors, Philippe Janada, si le présumé coupable est acquitté, c'est dû surtout à la brillante plaidoirie de Maître Garçon lors d'un procès retentissant en 1943.
Oui, alors c'est dû en partie, c'est même presque une plaidoirie, c'est presque un numéro de cirque. Hein, c'est-à-dire parce que là, vraiment, toute la région, et même toute la France, hein, est convaincue, plus ou moins légitimement, puisque les versions qu'on a données l'accablent, le coupable, donc tout le monde est convaincu, tout le monde hurle à la mort devant le tribunal de Périgueux. Et puis le procès se déroule en 5 jours, et pendant 4 jours et demi, ça ne fait l'ombre d'un doute pour personne. La seule question, c'est est-ce qu'on va le guillotiner la semaine prochaine ou dans 2 mois, quoi. Et puis dans les 2 dernières heures, Maître Garçon fait sa plaidoirie de 2 heures seulement, ce qui est court pour une plaidoirie, surtout dans un cas comme celui-là. Avant qu'il commence, tout le monde est persuadé qu'il est coupable. 2 heures plus tard, tout le monde est persuadé qu'il est innocent. Il est applaudi. Les jurés partent délibérer. Je pense que ça doit être le record du monde. Il reste 8 minutes. 8 minutes en salle de délibération. Ils reviennent, ils disent qu'il est acquitté. Alors il y a ce côté grande performance d'un génie du barreau, Maurice Garçon, mais il y a d'autres choses plus troubles en dessous. Et ça, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est un ancien commissaire de police qui écrit des livres maintenant, qui s'appelle Guy Penaud, qui a écrit un livre sur cette affaire, d'ailleurs, où il dit que Henri Girard est coupable. Et il a retrouvé dans de vieilles archives que Maurice Garçon est le président du tribunal, c'est-à-dire celui qui menait les débats pendant ce procès. C'était écrit avant et avait plus ou moins convenu. Enfin, le président avait été envoyé à Limoges parce qu'il avait fait une bêtise à Paris. Il voulait revenir au palais de justice de Paris. Et plus ou moins clairement, Maurice Garçon lui disait « Je vais intervenir en votre faveur, mais soyez gentil avec mon client. » Donc il y a vraiment des trucs troubles. Et quand on découvre ça, évidemment, on se dit « Bah voilà, c'est vraiment voilà la raison de l'acquittement complètement inattendu de ce coupable idéal. »
Henri Girard, donc, reconnu non coupable. À l'issue du procès et sur les conseils de Maître Garçon, donc Henri Girard va déposer plainte contre X pour que l'enquête sur le meurtre de son père et de sa tante reprenne. En février 1944, il retire sa plainte. Et là, c'est une vie un peu d'aventurier qui commence pour Henri Girard, qui quitte la France. Parce qu'on peut penser qu'il ressort blessé et diminué. Bon, 19 mois de prison, avoir été, à la une des journaux comme étant le meurtrier de son père et de sa tante, c'est psychologiquement lourd à porter. Le personnage est remuant, sulfureux, il restera un sale gosse quand même un petit peu, il s'assagit un peu en vieillissant, mais...
Oui, oui, mais il quitte la France pas tout de suite en fait. Il se passe quelque chose quand il sort de prison, donc en 1943. Il hérite donc de cette très grande fortune. Et alors que tout le monde avait dit qu'il les avait tués pour l'argent, hein, c'était le seul mobile, évidemment, c'était d'hériter de tout, il dilapide cette fortune. Mais alors il la dilapide de manière... pas tellement qu'il va dans les grands restaurants ou qu'il fait des grands voyages. Il donne à tout le monde, il distribue. Chez lui, il habite sur l'île Saint-Louis. Chez lui, il y a des tiroirs remplis de billets. Et tous les gens qui passent, les clochards, les prostituées du quartier ou ses amis... qui sont des gens, ses amis d'avant, qui sont des gens pas riches du tout, se servent à plein de mains. Il habille de fourrure et de diamants toutes les prostituées de l'île Saint-Louis. Il invite tout le quartier à dîner, à déjeuner tous les jours. En 2 ans, il dilapide une fortune que sa famille avait mis plus d'un siècle pour amasser. Il ne s'occupe même pas du château d'Escoir, par exemple. Le château finit par être saisi parce qu'il a des dettes, mais il n'a même pas cherché à le revendre ni rien. Et donc en 46, fin 46, 2 ans, 3 ans après sa libération, il n'a plus un sou.
De millionnaire, il est clochard.
Il est passé en 2 ans, il a tout dilapidé, tout. Il est passé vraiment clochard, c'est-à-dire qu'il n'a plus de quoi manger, il n'a plus de quoi s'habiller, il vient d'avoir 2 enfants. Et donc il a un ami à lui, un peu bizarre, un peu farfelu, qui lui dit « Au Venezuela, il y a des émeraudes par terre, viens, on y va, on ramasse les émeraudes, on fait fortune, on revient. » Et donc il part au Venezuela, en Amérique du Sud, pendant 2 ans, et il n'a pas fait fortune, loin de là. Il est revenu vraiment pour le coup comme un clochard.
Alors ce qui est formidable sur le paquebot pour la traversée de l'Atlantique, il y a un chanteur débutant, il croise Léo Ferré.
Oui.
Et puis, il va rencontrer aussi Henri Charrière, le légendaire papillon. Et là, il mène une vie. Quelle vie mène-t-il en Amérique du Sud ?
Alors là-bas, à cette époque-là, donc fin des années 40 en Amérique du Sud, c'est très particulier parce qu'il y a toute une population. Alors il y a évidemment pas mal d'anciens collabos qui se sont sauvés, qui ont quitté la France par peur des représailles. Il doit y avoir quelques nazis qui traînent. Il y a des évadés du bagne de Cayenne qui sont là-bas, qui rôdent, qui ne peuvent pas vraiment rentrer en France parce qu'ils se feraient attraper, mais qui rôdent par là-bas. Et puis, il y a toute une cohorte d'aventuriers, on les appelle les tropical tramp, les vagabonds ou les clochards tropicaux, qui espèrent chercher fortune comme lui. Et donc, il fait tout un tas de petits boulots, camionneur, serveur dans des bars, il cherche de l'or à deux reprises, il part, comme dans les films, avec un tamis, il va dans les rivières, il cherche de l'or, évidemment, il trouve presque rien, et tout ce qu'il trouve, il le dépense le soir au bar du coin. Et donc voilà, pendant 2 ans, ça va de mal en pis jusqu'à ce que carrément même il soit poursuivi parce qu'il y a une révolution au Venezuela et lui était du côté de ceux qui ont été chassés, donc il est poursuivi. Bon, enfin bref, c'est absolument rocambolesque, c'est vraiment une vie, c'est 2 ans extrêmement aventuriers. Et bah voilà, à bout de force, il est malade, il est maigre, il n'a plus de dents, il n'a plus de chaussures. Voilà, il finit par rentrer en France sur un paquebot en passager clandestin.
Nous continuerons à dérouler la vie complexe, sulfureuse et bouillonnante de Henri Girard avec notre invité, prix Femina 2017, Philippe Janada, auteur de La Serpe, un roman disponible aux éditions Julliard. Très bonne soirée sur votre radio locale. On revient très rapidement, c'est Wagon Livre, votre émission littéraire. Et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Tout de suite, je vous propose Loin, interprété par Alioz, et c'est un extrait de l'album Comme on respire.
S'aimer assez fort pour nos corps en désaccord, peu importe fille ou garçon, tant qu'il est de saison.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Retrouvons notre invité, Philippe Janada, romancier récompensé l'an dernier par le prix Femina pour La Serpe, paru aux éditions Julliard. Arrêtons-nous cette fois, Philippe, sur la carrière littéraire de Henri Girard, qui sous le pseudonyme de Georges Arnaud, en 1950, fait paraître chez Julliard Le Salaire de la Peur. À quel moment Henri Girard devient-il Georges Arnaud ?
Il s'appelait Henri Girard. Alors, pour l'état civil, il n'a pas changé. C'est juste un pseudonyme qu'il a pris pour son roman. C'est-à-dire que voilà, il écrit, il cherche de l'argent. On lui dit, moi, j'aurais rêvé d'être camionneur, mais j'ai pas de permis en France. Donc, j'ai fait écrivain parce que là, on prend n'importe qui. Et c'est pas faux, parfois. Et donc, voilà, il écrit un premier. Il raconte ses souvenirs en Amérique du Sud, vraiment, une sorte d'autobiographie de ses souvenirs en Amérique du Sud. Mais il propose à un éditeur qui lui dit, non, c'est trop littéraire, il n'y a pas assez d'action, c'est mou, c'est trop poétique. Voilà. Donc, il se sert de ce décor et de ce qu'il a vécu, mais en rajoutant une intrigue, une vraie, c'est-à-dire des gars qui transportent de la nitroglycérine.
Enfin,
et qui
il l'a pas trouvé tout seul, cette idée. Non. Quelque part, il a peu de mérite.
Oui, enfin, il a quand même, il s'est souvenu qu'il avait croisé dans je ne sais plus quel pays d'Amérique du Sud un type qui avait l'air très vieux et qui en fait avait 30 ans et qui disait, voilà, j'ai pris tous mes cheveux blancs et cette tête-là parce que un jour, j'ai dû transporter en 24 heures la nitroglycérine en camion et qu'au moindre trou, ça pouvait exploser. Voilà, ça m'a, voilà. Donc, simplement, c'est pas qu'il n'a pas de mérite, il se dit, je vais me servir de ça, je vais inventer une histoire autour de ça que je vais mettre dans le décor. Et donc, il écrit un livre qui s'appelle « Le salaire de la peur ». Et il le présente à un éditeur, en l'occurrence le même que moi, Julliard, qui tout de suite, qui accepte de le publier, parce que moi je pense que c'est un roman très fort, c'est un roman court, mais d'une grande force, d'une grande profondeur, je trouve, même si c'est sous les apparences juste d'un roman noir, presque pas un polar, mais enfin un roman à suspense, disons. Sauf qu'Henri Girard, le nom Henri Girard, on est en 1950, ça fait 7 ans que le procès a eu lieu, mais ça a eu un tel retentissement, ce procès. Henri Girard, pour tout le monde, c'est l'assassin du château d'Escoire. Donc il se dit... Alors, je ne sais pas si... En fait, je n'ai pas réussi à savoir. Est-ce qu'il prend un pseudonyme parce qu'il a peur qu'on fasse le lien entre celui qui était accusé du meurtre et lui, et que donc on lui retombe dessus? Ou est-ce qu'il prend un pseudonyme parce qu'il ne veut pas profiter d'une sorte de notoriété un peu lugubre, mais de notoriété qu'il a eue? Donc je ne sais pas si c'est par peur ou par conscience, au contraire, par une espèce de truc moral qui dit « je ne veux pas que ce soit rattaché à la publicité que j'ai eue à l'époque avec ce truc, avec ce crime ». Et donc voilà, il s'appelle Georges Arnaud. Georges est le prénom de son père, qui est une des victimes du château. Et Arnaud, c'est le nom de jeune fille de sa maman qui est morte.
Il y a eu un drame aussi dans la vie de petit garçon. C'est que je crois qu'il a 9 ans lorsque sa mère disparaît. Et privé de mère, quelque part, ça a été un drame pour son enfance.
Oui, alors je pense que c'est évidemment un drame pour tout le monde. Pour lui, peut-être encore plus, parce que sa mère était quelqu'un de très, très particulier. C'était une femme... vraiment, je pense, très intelligente, très forte, très, très originale, enfin bon, qui passait beaucoup de temps avec lui, puisque le père travaillait au ministère des Affaires étrangères, était rarement là. Donc déjà, il a perdu une mère où il s'était vraiment fusionnel avec elle. Il l'a perdu à 9 ans, qui est l'âge où on sort de la petite enfance. Et puis, il s'est retrouvé avec son père, qui, encore une fois, son père n'était pas du tout quelqu'un de fait pour élever un enfant tout seul, quoi. Et puis, qui travaillait beaucoup, déjà. Et puis même qui était pas tendre, ou en tout cas qui savait pas l'exprimer, le manifester. Donc il s'est retrouvé, il dit hein, d'ailleurs plus tard, il a écrit, il s'est retrouvé comme seul au monde du jour au lendemain.
D'ailleurs, tu as eu un petit peu accès aux journaux, enfin au journal intime du père d'Henri Girard. Tu évoques le tien aussi un petit peu dans le roman.
Mon père, oui.
Le tien.
Oui, oui, oui. Oui, parce que bon, c'est un peu peut-être anecdotique, mais Georges Girard, donc son père, qui était anti-pétainiste, anti-allemand, mais qui avait suivi, il était archiviste au ministère des Affaires étrangères, donc il a suivi le gouvernement à Vichy. Et alors, c'était quand même un homme courageux, parce qu'il était à Vichy, à l'hôtel du Parc, où il y avait tout le gouvernement, il était à quelques portes de celle du maréchal, et il tenait un journal où vraiment il disait c'est crapule. Alors, vraiment, si on avait saisi son journal. Mais le problème, ce journal qui fait des centaines de pages, il ne parle que de politique. Je pense qu'il s'est dit, parce qu'évidemment il ne savait pas, il a d'ailleurs jamais su que la guerre a fini par prendre fin, hein, puisqu'il est mort en 1941. il a dû se dire, je vais laisser peut-être un témoignage pour l'histoire. Donc il ne parle pas du tout ni de lui, ni de sa famille, ni de son fils, ni de sa femme décédée. Il ne parle que de ce qu'il lit dans les journaux, de ce qui se passe au ministère, mais enfin de ce qu'il envoie. C'est une sorte de revue de presse, une revue de presse politique clandestine de plusieurs centaines de pages. Et Maurice Garçon, d'ailleurs, qui a lu ce journal, a dit, bon, ça n'a aucun intérêt. Et oui, je parle de mon père, parce que moi, il était très malade, il est mort il y a quelques années, il était très malade, je lui avais offert, avec ma femme, on lui avait offert un beau cahier pour qu'il écrive son journal, donc il a écrit son journal. Quand il est décédé, j'ai pris avec émotion ce journal, et en fait, mon papa a fait comme Georges, c'est-à-dire qu'au lieu de parler de lui, de ce qu'il ressentait, de la fin de sa vie, de ce qu'il pensait de sa femme, de ses enfants, de ses souvenirs, etc., il disait ce qu'il voyait à la télé. C'est-à-dire, oh, Ségolène Royal a dit ci ou ça, oh, il revoit la Sarkozy. On s'en fout complètement, en fait. Ça n'a aucune... Et moi, je disais à mon père, je levais les yeux au ciel, je ne sais pas où il est, mais j'aurais préféré qu'il me raconte son petit déjeuner du matin ou sa promenade dans la forêt autour de la maison que ce qu'il a vu sur Ségolène Royal et François Hollande, quoi.
Revenons au roman de Henri Girard, qui a donc pris le pseudonyme de Georges Arnaud. 2 millions d'exemplaires vendus. Comment ce roman a-t-il été accueilli à l'époque? Donc en 1950.
50. Il est sorti en octobre 1950. Il a failli avoir le prix Goncourt. Enfin, il a failli. Il était un des favoris du prix Goncourt. Il a été bien accueilli, mais très bien accueilli même, hein, en tout cas dans le milieu littéraire. Les critiques, la plupart ont été très, très enthousiastes, les lecteurs. Mais disons que le roman a dû se vendre à 30 ou 40 000 exemplaires, à peu près, ce qui est un beau succès. Hein, mais qui... Et en fait, c'est quand le film est sorti début 1953, le film de Georges Clouzot, donc Le Salaire de la Peur, c'est quand le film est sorti que les ventes du roman ont explosé. Et alors, ce qui est un peu paradoxal, ou un peu triste, ou un peu cynique presque, hein, c'est que ce roman a vendu 2 millions d'exemplaires et est connu dans le monde entier grâce au film. Et en même temps, à cause du film, plus personne ne lit ce roman. Moi, pendant que j'écrivais le livre, je me renseignais autour de moi. Une personne sur 100 a lu ce roman, quoi. Tout le monde me disait, oui, c'est un film de Georges Clouzot, c'est un chef-d'œuvre. La moitié des gens me disaient, mais je crois que c'est adapté d'un roman. Plus personne ne se souvient du nom de Georges Arnaud. Et alors, ceux qui l'ont lu, c'est vraiment une infime partie. Le film a dévoré le livre.
Il y a Charles Vanel, il y a Yves Montand dans le film. Et alors, tu racontes une anecdote absolument formidable. Simone Signoret vient accompagner Yves Montand sur le tournage donc, du Salaire de la Peur, qui est réalisé par Henri-Georges Clouzot. Ça se passe en Camargue, enfin, pas l'action du film, mais
ils
les
ont
décors,
reconstitué le village sud-américain.
Et Simone Signoret, elle joue un peu la bourgeoise parisienne, mais acquise aux idées communistes, ouais. Et elle parle un peu peuple avec un des machinistes. Et j'aimerais que tu nous racontes un peu.
Oui, alors c'est évidemment Henri Girard, hein, Georges Arnaud, qui raconte cette scène, vue sous son regard. On ne sait pas si c'est vraiment authentique ou s'il a forcé le trait, mais donc il se moque de Simone Signoret qui arrive sur le tournage, qui va voir ce qu'on appelle les machinos, c'est-à-dire les électriciens ou ceux qui s'occupent de toute la technique, les accessoiristes, etc. Enfin, plutôt même le côté électricien ou projectionniste, enfin éclairagiste et tout ça. Et elle fait vraiment avec son accent du peuple, alors les gars, vous avez vu ce soleil, il est un peu beau, non? Et elle se fait vraiment rembarrer par un des machinistes qui lui dit on n'a pas élevé les visons ensemble. Et donc il se moque un peu, à juste titre ou pas, hein, j'en sais rien. Henri Girard se moque un peu de cette dame riche et célèbre qui vient faire comme si elle venait discuter le bout de gras avec ses collègues d'usine, quoi.
Alors le film Le Salaire de la Peur donc, sort en avril 1953. Il est Palme d'Or à Cannes sous la présidence de Jean Cocteau. Charles Vanel obtient même le prix d'interprétation masculine. Philippe, le château des Squares, alors, à qui appartient-il? Qu'est devenu ce château qui existe toujours?
Ouais, alors ce château a une vie avec des hauts et des bas. C'est-à-dire que donc, comme je disais tout à l'heure, il a été saisi... parce qu'Henri Girard avait des dettes, il a été revendu aux enchères vraiment pour une bouchée de pain. Il a été acheté, il n'y a même pas eu de... Parce que pour tout le monde, c'était quand même le château de l'horreur. Hein, il y a eu vraiment un bain de sang dans ce château, donc personne n'en voulait. Il y a un marchand de bois de Brive, je crois, ou de Périgueux, je ne sais plus, un entrepreneur, enfin, qui avait besoin de bois. Et comme le château comprenait un immense parc boisé avec des grandes forêts, donc il l'a racheté juste pour ça. Mais il a quand même pensé s'installer dans le château, mais quand sa femme est rentrée dans le château et qu'elle a vu, donc c'était 6 ou 7 ans après le crime, il y avait encore du sang partout, quoi. Le parquet était imprégné, le parquet du château, les murs étaient imprégnés de sang. Donc sa femme a dit, je veux plus jamais mettre les pieds là-dedans. Donc le château est resté inhabité jusqu'à ce qu'il le revende. Il l'a finalement revendu, comme quoi le destin des demeures. Il a été revendu à une compagnie de téléphone, LMT, s'appelait, c'est l'ancêtre de Thomson, qui en a fait une colonie de vacances. C'est-à-dire que ce château qui était vraiment le symbole du crime et de l'horreur, plein de petits-enfants se sont mis à s'ébattre pendant des années dans ce château, jusque dans les années 70, je pense, et puis il a été racheté par un ou deux propriétaires, et en ce moment, il appartient à un monsieur qui s'appelle monsieur Kordalov, enfin un couple, monsieur et madame Kordalov, qui ont essayé de faire chambre d'hôte, qui ont arrêté pour diverses raisons, et le château est en vente en ce moment, s'il y a des gens intéressés.
Pas toi, Philippe, avec tous les gains du prix Femina de la SERP.
Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée que j'aille m'installer à Esquire, parce que dans le livre, j'ai quelques griefs, et je crois que je ne suis pas tout à fait le bienvenu à Esquire.
Alors tu racontes aussi, il y a toutes ces anecdotes concernant le lynchage rural. Il y a des sales gosses qui parlent à la fenêtre alors que tu passes dans la rue. Tu es toujours habillé en noir d'ailleurs, hein, je le dis. Oui. Là, ce soir, tu es en noir
comme
devant
toujours.
Le micro. Des sales gosses qui te jettent un œuf sur le costume.
Enfin, oui, je me suis fait attaquer.
Attaquer, hein, le lynchage rural. Et puis alors, il y a une page un peu déroutante, ton fils Ernest va avoir les oreilles qui chauffent. Qu'est-ce qui t'a pris de parler de cet épisode du thermomètre électronique, franchement? Avoue que tu pouvais ne pas l'évoquer.
Non, je ne pouvais pas.
Pauvre gosse, attends, il t'en veut pas, j'espère.
Et au contraire, au contraire, si, lui, il m'en veut peut-être un peu, ou il fait semblant, mais il est devenu très célèbre. On ne me parle que de cette histoire de thermomètre. Alors, dans son lycée, n'en parlons pas, tu vois, il est en terminale.
Littéraire, je crois.
Oui, littéraire, oui. Non, en fait, pour être simple, mon fils a 17 ans, ça fait 17 ans que j'essaye de parler de mon fils et de l'amour que j'ai pour mon fils dans les livres. Et que je n'y arrive pas, parce que je deviens très vite... Moi, pour écrire, j'ai besoin d'un peu de détachement, un peu de recul. Et quand je parle de mon fils, je deviens très vite complètement neuneux, quoi. Je deviens mièvre.
T'es gonflé, tu écris. Donc, je situe, hein, tu racontes l'épisode où tu es à la maison, ta femme est au travail, ton fils a de la fièvre, et tu lui dis, écoute, il faut prendre ta température. Donc, tu lui dis, voilà un thermomètre électronique, tu te le mets dans le fondement, et puis tu presses sur le bouton, quand ça fait bip, tu attends, et voilà. Et tu écris, je suis donc allé chercher le thermomètre électronique, j'ai mis un peu de vaseline dessus, car le trou du cul de mon fils est la prunelle de mes yeux.
C'est tellement vrai.
Enfin, mais tu vois, prix Femina. Le roman, c'est pas que ça, attention. Il y a le gros travail d'investigation autour de cette affaire. Pour conclure, Philippe, Henri Girard, est-ce qu'il t'est sympathique? Est-ce que l'homme t'est sympathique au regard? Alors, on n'a pas évoqué toute sa carrière de journalisme, de documentariste par la suite, ayant pris un petit peu fait et cause pour les opprimés, pour les humbles, tout de même. Oui. Il n'a jamais été communiste, mais...
Non, il a consacré sa vie à lutter contre toutes les formes d'injustice, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit judiciaire ou politique ou autre, enfin bon. Est-ce qu'il m'est sympathique? Oui, de loin. C'est-à-dire d'où je suis là, quand je pense à lui, quand je vois sa vie, quand j'essaye de me mettre à sa place et de voir tout ce qu'il a fait dans sa vie, il m'est plus que sympathique. Je pense que c'était quelqu'un, pour plein de raisons, parce qu'il a été vraiment marqué quand il était jeune, c'est un vrai traumatisme, hein, cette histoire pour lui. Je pense que c'était quelqu'un qui était difficilement abordable. C'est-à-dire que je pense que si je le croisais maintenant, je ne suis pas sûr que ce serait mon ami, je pense qu'il était vraiment très difficile d'accès. C'était quelqu'un vraiment d'imprévisible et d'assez violent, verbalement en tout cas. Donc voilà, il m'est sympathique, mais il y a d'autres gens comme ça. Hein. Il y a des gens, je ne sais pas, j'ai une certaine admiration pour un écrivain qui s'appelle Bukowski dans ses livres. Je pense que si je le croisais, je le détesterais. Quoi. Mais voilà, et Henri Girard, je pense que... Il fallait être assez fou pour être son ami. Or, moi, je suis une petite chose fragile et discrète. Voilà. Mais en tout cas, oui, le personnage, tel que je peux l'approcher par télépathie, mais plus que sympathique.
Et puis tu racontes avec Calaferte quand Georges Arnaud, ils vont au théâtre avec des flingues plein les poches, ils rentrent dans le théâtre, hein, dans les allées du théâtre, et ils insultent les gens, les traitent de connards.
Imagine, très,
chose impensable aujourd'hui, bien sûr.
Ça pour les théâtres, mais même ils prenaient leur voiture, ils s'amusaient à renverser les étals des marchés, ce que je trouve complètement crétin. Quoi. C'est pour ça que je dis, si je voyais quelqu'un faire ça, ça serait vraiment pas mon ami. Mais avec un peu de distance et de recul, on comprend certaines choses et je crois que c'était finalement un bon gars.
Philippe, je te félicite pour ce prix Femina. Merci pour l'entretien que tu nous as accordé. Je rappelle bien sûr le titre de ce roman, La Serpe. C'est aux éditions Julliard et la maison d'édition doit être très heureuse de renouer avec les prix.
Tout se passe bien. Ça faisait longtemps. Les derniers prix, les années 60, je crois.
Bon. C'est la fin de Wagon Livre aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve mercredi 17 janvier prochain, toujours à 21h sur Radion, avec Pierre-Jean Cardona pour un émouvant récit intitulé 38 rue de Constantine. C'est le témoignage d'une adolescence en Algérie française avant l'indépendance de ce pays en juillet 1962. Ils ont été des centaines de milliers à devoir quitter subitement l'Algérie. Pour chacun, ce fut une histoire personnelle, mais pour tous, ce fut un déchirement. Pierre-Jean Cardona était adolescent en 1961 et il retrace quelques épisodes familiaux dans la banlieue d'Alger, à Hussein-Bdé, dans une famille de gauche. C'est au programme de Wagon Livre la semaine prochaine. En attendant, le plaisir de vous retrouver sur les ondes. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur votre radio locale. Merci de votre fidélité. À bientôt. Au revoir à toutes et à tous.